Musique en mémoire.
Musique en mémoire.
Loin d'être un de ces arts faciles qu'on apprend sans mal, la danse est le couronnement de toute l'éducation. Elle est l'aboutissement non seulement de la musique, mais aussi de la rythmique, de la métrique et surtout de la philosophie qui t'est chère, la physique et l'éthique. Car, pour ce qui est de la dialectique, elle la considère comme une activité superflue et inopportune. Elle n'est pas non plus en rapport avec la rhétorique, dans la mesure où elle reflète les mœurs et les passions, ce à quoi s'attachent aussi les orateurs. Enfin, elle n'est pas très éloignée de la peinture ni de la sculpture, dont elle imite tout particulièrement la recherche des proportions harmonieuses, si bien qu'elle égale Phidias et Apelle. Le premier devoir du danseur est de se concilier les faveurs de Mnémosyne et de sa fille, Polymnie, pour se souvenir de tout. À l'instar du devin Calchas dans l'Iliade, le danseur doit savoir ce qui est, ce qui sera et ce qui a été, de façon que rien ne lui échappe et qu'il dispose en permanence d'une mémoire sans faille.
Lucien de Samosate le disait assez au début du IIe siècle. Bonjour David Mestri.
Bonjour Jean-Luc Rider.
Lucien de Samosate le disait assez dans son éloge de la danse. Et on va s'en convaincre aujourd'hui encore, hein, au gré de cet atelier Renaissance auquel vous avez assisté. Je le rappelle, c'était dans divers lieux de la ville de Gruyère du 26 août au 2 septembre passé. Et il y a question d'un côté de danse, de danserie, de chorégraphie, et de l'autre de lutherie.
Et encore dans un troisième volet de différents concerts qui ont été donnés par des ensembles réputés de cette musique de la Renaissance. Donc on est entièrement plongé dans les 15e et 16e siècles pendant toute une semaine.
Et donc aujourd'hui, sur quoi on va se pencher ? Sur la danse, sur le mouvement,
sur le rythme, un cours de rythme précisément qu'on va entendre au milieu de cette émission. Mais commençons peut-être par la salle des gardes de ce château de Gruyère que nous avons déjà visité à plusieurs reprises.
Oui.
Avec Philippe Motério, qui est le maître luthier, spécialiste de la construction de guitares et de luthes, et qui construit avec ses deux stagiaires, Coralie Chalère et Guy Luisoni, deux petites guitares Renaissance.
Philippe Motério, qui est aussi le président de l'association Guitare et Luthes, et c'est lui la cheville ouvrière de ce festival gruyérien. On le rejoint.
Guy Luisoni, ces baguettes qui sont sur cet endroit-là cette salle, qu'est-ce qu'elles vont devenir dans l'instrument ? Ce sont des baguettes avec des bouts marqués en noir ?
Ça nous sert à justement tenir en place
les barres. Bon, c'est pas dans l'instrument, mais
Pas dans l'instrument, c'est juste
une sorte de ressort pour
tenir les barres jusqu'à ce que la colle soit sèche.
Qu'on appelle les barres d'harmonie, ces barres qui sont à l'intérieur de la caisse.
C'est des barres, oui, d'harmonie. Oui, parce que la distance est calculée en fonction justement de la fréquence.
Et le chevalet est déjà collé, le chevalet en parchemin. C'est vous qui l'avez.
Ça, c'est déjà une grosse. Une artiste italienne.
La rose.
Avec des emporte-pièces, moi, c'est très, 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 très fin.
C'est un très joli travail de dentelle.
Oui, c'est un travail de dentelle, presque. Dentelle de la Gruyère.
Voilà, un petit poil de plus. Et à cet endroit-là, vous étiez avec donc, le chevalet.
C'est le chevalet, où est-ce que...
Qui est donc très plat par rapport à des chevalets, évidemment, d'instruments.
Les cordes bien attachées, là. On a une traction totale d'environ 40 kg sur une petite pièce comme ça. Il faut...
Et c'est en quel bois ?
Alors, là, il y a de l'ébène, et ça, c'est la même matière que celui du merisier.
Un peu rose, et puis bout d'ébène noir qui est collé dessus. Un
bout d'ébène noir qui est collé là-dessus, oui. Comme décoration, là.
Thank you. deux guitares en une semaine à trois, Philippe Mottet. C'est un rythme plus soutenu que ce que vous avez dans votre atelier. Vous en faites souvent des guitares ?
Bon, là, on a choisi pour la démonstration sur une semaine de faire des instruments relativement simples dans leur forme et dans le décor. Et puis, j'ai préparé les pièces à l'avance, à des épaisseurs où il n'y avait plus grand-chose à faire. Finalement, on gagne beaucoup de temps quand on ne doit pas raboter des éclisses jusqu'à 1,2 mm, mais qu'elles sont déjà à bonne épaisseur, on n'a plus qu'à les plier. Ce qui fait que c'est jouable, oui, sur une semaine.
Mais si vous avez une commande d'un musicien pour une guitare comme ça, vous demandez quel délai ?
Ça va me prendre peut-être 3 semaines de
vous êtes
travail.
Pas, vous n'êtes pas luthier à plein temps non plus, vous enseignez, vous jouez.
Bon, moi, je travaille, disons, à mi-temps comme professeur au conservatoire à Fribourg et à mi-temps comme luthier à la maison. J'ai une liste de commandes assez longue, passé 3 ans maintenant. Mais je continue avec cette manière de faire. J'aime bien ne pas faire tout le temps la même chose. Alors, c'est deux activités très complémentaires. Et puis, je me trouve heureux comme ça. Donc, je ne vais pas changer ma manière de faire. Donc, si on me commande une guitare Renaissance ou autre, effectivement, je vais la faire dans 3 ans. Mais dans 3 ans, il me faudra 3 semaines de temps pour la construire. Bon, les guitares que j'ai prises ici à Gruyère, un petit peu pour montrer l'évolution de l'instrument. La guitare Renaissance, la première qui est tout à droite, c'est un instrument, celui que j'ai pris là, qui est plus décoré. 3 semaines, 1 mois de travail, je dirais. Et celle qui est juste à côté, la guitare baroque, est un instrument très raffiné. Et c'est plutôt 3 mois que 3 semaines de travail.
À cause du travail de marqueterie, à cause des bois plus difficiles à travailler ou...
C'est un assemblage de pièces minuscules, des petits dessins de losanges qui recouvrent complètement l'instrument. Toute la tête sur les deux faces, la touche sur le devant, l'arrière du manche. En plus, l'arrière du manche est courbe. Le fond, les éclisses, tout ça est fait d'un assemblage de petits losanges de 3 cm sur 5 pour les plus grands et de 3 cm sur 2 pour les plus petits. C'est des bandes qui vont en rétrécissant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux losanges pareils sur l'instrument. Et tout ce plaquage-là a été fabriqué séparément et ensuite collé sur des supports en sapin. C'est une construction assez virtuose. Et j'ai fait cet instrument pour fêter un peu les 25 ans de ma première guitare. Alors, bon, c'était un travail, je dirais, oui, 3 mois répartis sur une année. Après, j'ai fait ça un peu pendant mon temps libre.
Et donc, la guitare qui, à la cour de France, à la fin de la Renaissance et au début de l'âge baroque, est un instrument très apprécié.
Apprécié par la noblesse en général en France, en Espagne, en Italie. L'instrument est représenté sur une multitude de tableaux. Et puis en France, il a la particularité d'être joué par les monarques. Henri II, Henri III, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV et même Louis XV, tous étaient guitaristes. Et puis ils ont tous eu à demeure à Versailles, pour les derniers de ces rois, surtout Louis XIV, les meilleurs guitaristes de l'époque, comme professeurs et surtout comme musiciens de la chambre, c'est-à-dire qu'ils avaient un guitariste à côté d'eux pour jouer quand ils se levaient, quand ils s'habillaient, quand ils mangeaient, et c'était, semble-t-il, leur instrument préféré. Alors, du coup, on trouve par exemple au musée de la Villette à Paris une collection de guitares faites pour la famille royale française, des instruments au décor extraordinaire.
Avec des matériaux précieux, comme c'est l'ivoire,
oui,
j'imagine.
Alors, en ivoire, en écailles de tortue, sur des fonds rouges, c'est des instruments qui sont vraiment magnifiques. Les décorations aux armes de la famille royale, des décors qu'ils devaient payer très très cher à ces facteurs. Il y a à Paris une grande famille de fabricants de guitares qui s'appelle les Vauboham, 3 générations l'une après l'autre. René, Jean et Alexandre, qui construisent à l'enseigne de la guitare royale des instruments décorés, faits par exemple dans des carapaces de tortue ou dans les matériaux les plus précieux de l'époque. Des instruments avec des pistagnes, c'est-à-dire des décors en noir et blanc qui courent tout le long de la rosette, du pourtour de l'instrument, le long de la touche. on en met vraiment un maximum. Alors, moi, je me rends compte aussi en faisant une copie comme ça que vraisemblablement, il devait payer un artisan pour 3 ou 4 mois de travail en lui commandant un instrument aussi décoré que possible. Et voilà. Et à côté de ça, il y a une production qui devait être beaucoup plus simple. Les Vauboham devaient faire des guitares normales, disons, sans décor excessif, qui devaient vendre beaucoup moins cher. Mais presque aucune ne s'est conservée. Bien sûr, c'est que les instruments à décor,
précieux, voilà.
Très précieux, qui ont été conservés soigneusement et peut-être rarement joués, en fait. Voilà.
Et puis vous parliez de corps de carapace de tortue. Cette guitare plus ancienne aussi, elle fait penser un peu à un tatou. C'est une des origines de l'instrument, l'intérieur d'un animal. Ça remonte à des mythes grecs.
Pourquoi pas, on trouve en tout cas en Italie plusieurs instruments baroques, donc des petites guitares qui sont faites dans des carapaces de tortue. Il y en a aussi qui ont été faites pour la cour de France, sur le même modèle que les instruments populaires sud-américains d'aujourd'hui qui sont souvent faits dans des carapaces d'animaux.
Et puis quand on pense à la musique ancienne, on pense d'abord plutôt aux luths comme l'instrument noble par excellence, mais vous nous avez raconté donc tous les rois de France jouaient de la guitare. Ça veut dire que c'était plus facile que le luth aussi, ou bien est-ce que c'était vraiment l'instrument que l'on préférait au luth pour la sonorité ou pour le répertoire?
Je crois que vous avez raison en disant que l'instrument est plus simple à utiliser et à écouter. C'est un instrument de musique à battre et à danser, comme il disait, c'est-à-dire sur lequel on peut faire des rythmes très facilement, tout à fait comme la guitare folk aujourd'hui. Et j'imagine pas un roi de France jouer une polyphonie très compliquée à 3 voix sur la guitare. Il avait dû apprendre quelques accords dans le style Bobby Lapointe et s'en servir pour épater la galerie. Et voilà, il jouait donc de la guitare. Alors que le luth est un instrument qui a beaucoup plus de cordes et un jeu nettement plus compliqué. Et la musique qu'on pratique sur le luth souvent est polyphonique. À l'époque baroque, des voix qui sont bien cachées les unes par rapport aux autres. C'est un répertoire assez difficile. Alors, il y a des joueurs de luth pour la chambre du roi. Charles Mouton, par exemple, est célèbre pour la musique qu'il écrit dans le style brisé, où on a de la peine à suivre la mélodie, justement. Je crois que c'est ça qu'ils appréciaient. Mais évidemment qu'il était seul à pouvoir jouer sa musique.
Peut-on imaginer qu'un homme accompli, cultivé et versé dans la philosophie, au lieu de chercher le bien et de fréquenter les anciens, préfère rester assis, envoûté par la musique d'une flûte, à regarder un drôle efféminé qui, se pavanant dans des habits moelleux au sang de chants lascifs, imite les plus luxurieuses des amoureuses d'autrefois, les Phèdres, les Parthénopées, les Rhodopées. Tout cela, ces musiques, ces chants, ces battements de pieds, n'est-ce pas ridicule et parfaitement indigne de l'homme libre que tu es? Aussi, quand j'ai appris que tu consacrais ton loisir à ce genre de spectacle, je n'ai pas seulement eu honte pour toi, je fus tout triste de penser qu'oubliant Platon, Chrysippe et Aristote, tu restais assis sans rien faire, comme ceux qui se chatouillent les oreilles avec une plume. Il existe pourtant mille autres moyens d'instruire ses oreilles ou ses yeux. Pour ceux qui en éprouvent le besoin, il y a les flûtistes, qui jouent en cercle sur la scène, les artistes qui chantent leurs vers au son de la cithare. Il y a surtout la vénérable tragédie et la joyeuse comédie qu'on a jugée digne d'être matière à concours. Tu auras fort à faire pour te défendre auprès des gens instruits si tu ne veux pas qu'on t'exclue de leur rang et qu'on cesse de te compter au nombre des gens sérieux. La meilleure solution, la voici. Contente-toi de nier que tu as jamais commis semblable forfait. Et à l'avenir, tâche de ne pas devenir, à ton insu, d'homme que tu étais, une Lydienne ou une Bacchante. Nous serions aussi coupables que toi si, suivant l'exemple d'Ulysse, nous ne t'arrachions pas à ton lotos pour te ramener à tes occupations habituelles, avant que, sans même t'en rendre compte, tu ne finisses par être possédé par les sirènes du théâtre. Dans l'Odyssée, cependant, les sirènes s'attaquaient aux oreilles. Aussi, un peu de cire suffit pour doubler leur rivage. Mais toi, c'est également par les yeux que tu as été réduit en esclavage.
Aïe! Aïe, Craton! Comme il a l'écrou à serrer le chien que tu as déchaîné contre nous. Mais je trouve que l'exemple des lotophages et des sirènes est bien mal choisi. Car ceux qui goûtaient au lotos ou prêtaient l'oreille aux sirènes le payaient cher. Dans mon cas, outre que le plaisir que j'éprouve est infiniment grand, je n'en tire par ailleurs que bénéfice. Car s'il faut parler librement, loin d'en venir à oublier mes devoirs domestiques et à ignorer ce que j'ai à faire, je sors du théâtre beaucoup plus sage, beaucoup plus clairvoyant. Je dirais même, pour citer le beau vers d'Homère, que celui qui a vu ce spectacle s'en retourne charmé et plus riche en savoir.
Faut-il que tu sois gravement atteint pour te vanter de ton mal au lieu d'en rougir? C'est bien ce qu'il y a de plus terrible. On comprend en t'entendant faire l'éloge de spectacles aussi honteux et méprisables qu'il n'y a aucun espoir de te guérir.
Mais dis-moi, Craton, tu en as vu beaucoup de ces spectacles que tu blâmes et que tu juges honteux et méprisables? Si oui, tu es à égalité avec nous. Sinon, ce serait aussi peu fondé que téméraire de critiquer et blâmer ce que tu ne connais pas.
Il ne manquerait plus que j'aille m'asseoir, avec ma longue barbe et mes cheveux blancs, au milieu de ces damerets, de ces toquets de spectateurs. Et tu voudrais que j'applaudisse et que je félicite un misérable qui se contorsionne sans pudeur?
Parce que c'est toi, Craton, je te passe ces propos. Pourtant, si j'arrivais à te convaincre et si, simplement pour essayer, tu acceptais d'ouvrir les yeux, je sais que tu supporterais mal de ne pas être dans les premiers rangs pour voir et entendre parfaitement.
Tant que j'aurai du poil aux jambes et de la barbe au menton, je préfère les plus grands malheurs à pareille ignominie. Quelle pitié de t'entendre délirer de la sorte!
Mais veux-tu cesser tes imprécations? Si tu voulais bien m'écouter, je te parlerais des beautés de la danse, du plaisir et même du profit des spectateurs. Je te dirais en quoi elle éduque, instruit, comment elle règle l'âme des spectateurs en l'exerçant par de magnifiques spectacles et en proposant les plus beaux concerts. Comment, enfin, elle fait voir la beauté de l'âme et du corps. Si c'est par le rythme et la musique que la danse obtient tout cela, plus que de blâme, elle est digne d'éloge.
Éloge de la danse, signé, je vous le rappelle, Lucien de Samosate au IIe siècle de notre ère, David Mestri, et là interprété par Éric Desfosses et André Neury, prof par l'exemple à Gruyère avec un cours de rythme que nous rejoignons maintenant, David.
Oui, la compagnie Outre Mesure serait entièrement d'accord avec la philosophie de Lucinos qui parlait à l'instant et qui défend cet art de la danse.
Oui.
Et c'est l'un des membres de cette compagnie qui est le percussionniste Sylvain Fabre qui donne un cours maintenant où il faisait danser les participants et jouer en rythme.
Quand vous disiez danser et faire jouer en rythme, c'était du 26 août au 2 septembre et toujours dans cet atelier Renaissance de Gruyère.
Alors, on va faire un pas de branle double. Deux pas à gauche, deux pas à droite, tranquille. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. On essaie de tous ensemble, ça serait bien. On va se diviser en deux groupes. Soyons ensemble, soyons ensemble. Vous ne laissez pas perturber. Si déjà là ça se perturbe, je ne vous dis pas après. 5, 6, continuez, je vous dénombre. A, B, A, B. A, B, A, B. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuez tout le temps, ne vous arrêtez à jamais. Tout le monde a bien retenu son groupe, si c'était A ou si c'était B. On va faire un truc assez pas trop compliqué. Les A, vous allez me faire ça. Ok, on arrête les A arrêtés. Les B, vous allez faire ça. Un, deux, trois, quatre. On rajoute les A. Ok, on continue la danse seulement, mais en branle simple. Gauche, droite. Gauche, right and left. On a carrément accéléré, vous vous en êtes rendu compte là, non? Les A. Je vous explique. Continuez de danser. À gauche, 2, 2, 3, 4, 5, 6. On fait des temps et des contre-temps, tout simplement. 1, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les B. On va commencer, ça va être la même chose, sauf qu'on on commence nous sous le contre-temps. 1 et 2, 3, 4 et 5, 6. 1 et 2, 3, 4 et 5, 6. 1. Ok, 4, 5, 6. Bon, on va commencer par les A. 1, 2. Les B, attention! Faisons-le sans danser, pour voir si vous y arrivez sans danser. Les A. 1, 2 et 3, 4, 5 et 6. Les B. 1 et 2, 3, 4 et 5, 6. 1 et 2, 3, 4 et 5, 6. Top! Vous vous laissez influencer. Essayez, c'est ça la difficulté en fait, de gérer sa ligne rythmique avec les autres. Soyez concentré sur ce que vous avez à jouer, tout en... N'écoutons les autres. C'est pas compliqué. Les A, comme Arfinti.
C'est nous.
1, 2 et 3, 4, 5 et 6. 1, 2 et 3. Les B, 1 et 2, 3, 4 et 5, 6. On accélère. 1. Écoutez-vous. Merci. Vous voyez, on fait tous la même chose. Juste une croche de décalage. En soi, c'est pas hyper compliqué, mais c'est cette difficulté qu'on a toujours de gérer sa ligne comparée avec les autres. Pour ça, c'est un, évidemment, l'habitude. Plus on en fait, plus ça devient facile. Mais c'est aussi une ouverture d'esprit. Donc, on fera un autre exercice comme ça demain, histoire de vous faire un peu, vous habituer un petit peu à ça.
Au total, il faut que le danseur soit parfaitement formé, de façon que tout en lui soit conforme au rythme, élégant, bien proportionné, en accord avec soi-même, irréprochable et sans défaut. Il doit réunir les meilleures qualités, finesse d'esprit, culture profonde et par-dessus tout, respect et souci de ce qui est proprement humain.
Les spectateurs le loueront sans réserve lorsqu'ils reconnaîtront leur propre bien, ou, pour mieux dire, lorsqu'ils se verront eux-mêmes dans le danseur comme dans un miroir réfléchissant leurs actes et leurs sentiments. Quand il en est ainsi, personne ne peut contenir sa joie, et chacun, voyant l'image de sa propre âme et se reconnaissant soi-même, tous se répandent en acclamations. Grâce au spectacle, le précepte delphique « connais-toi toi-même » devient réalité. Quand les spectateurs sortent du théâtre, ils savent quelle voie suivre et quelle voie éviter, et ils ont découvert ce qu'auparavant ils ignoraient. Cependant, puisque j'ai parlé des qualités des danseurs, écoute maintenant quels sont leurs défauts. Ceux du corps, je les ai déjà montrés. Quant à ceux de l'esprit, voici ce qu'on peut observer. Beaucoup de danseurs, du fait de leur ignorance, car il n'est pas possible qu'ils soient tous savants, commettent visiblement de graves fautes en dansant. Les uns exécutent des mouvements à contre-temps et qui n'ont rien à voir avec la corde de la lyre. Leurs pieds tombent ici quand le rythme est là. D'autres dansent en mesure, mais je me souviens de l'avoir vu un jour, ils se trompent dans la succession des épisodes. On ne saurait cependant se fonder sur de tels cas pour condamner la danse ou sa pratique. Sans doute doit-on considérer de tels danseurs pour ce qu'ils sont, des ignorants. Mais cela n'empêche pas de louer ceux qui exécutent en rythme tout ce qu'exige leur art.
Sylvain Fabre, vous êtes l'un des membres de cette compagnie Outre Mesure. Et donc, ce n'est pas seulement un stage de danse ici, mais c'est aussi un stage de musique où on enseigne la musique à danser aux musiciens, puisque avec vous ici, on a une violiste et une guitariste ou luthiste. Voilà, je vous demande votre nom.
Jessie Guénon.
Donc, stage aussi, il faut aussi non seulement apprendre à danser sur la musique, mais aussi à jouer la musique pour la danse.
Exactement, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Nous faisons de la musique à danser. Donc nous travaillons les appuis instrumentaux par rapport aux appuis de la danse. Voilà, c'est la spécificité de cette musique à danser de la Renaissance française.
Et c'est quelque chose de très différent à jouer que de jouer une partition écrite dans un cadre autre que celui de la danse.
Oui, bien sûr, parce qu'il faut vraiment adapter sa façon de jouer pour les danseurs et non pas interpréter la musique comme on voudrait le faire musicalement. Donc c'est toute une autre démarche en fait. Donc c'est vraiment passer par la danse pour interpréter la musique. Pour moi, c'est vraiment un autre chemin.
Et quand vous jouez du dessus de viol, c'est un côté répétitif aussi, parce qu'on joue sans arrêt la même mélodie pour les différents tours des danseurs.
Non, c'est pas répétitif. Il faut s'adapter à chaque fois, au pas, à ce qu'on fait. Techniquement, il faut se remettre en question. Donc, non, je trouve pas que ce soit répétitif.
Il y a une grande part à l'improvisation ?
Il devrait, oui, un peu plus, venant de moi. Il devrait, ça viendra.
Donc c'est l'un des buts aussi de la formation, de faire que les gens se lâchent dans l'improvisation, Sylvain Fabre.
Oui, complètement, parce que c'est ce qui rend aussi la chose très intéressante, c'est cet échange qu'il peut y avoir entre la musique et la danse, qui aussi passe par de l'improvisation, des surprises, de la diminution. Et ça, c'est une part très importante, et ça permet vraiment de se faire encore plus plaisir, parce qu'on est très libre. On peut partir exactement comme on fait en jazz, partir en free. Et ben, en Renaissance, c'est un peu moins free, mais on part tout autant.
Et les musiciens doivent connaître les pas de la danse ?
Ah, c'est primordial. C'est un musicien qui fait de la musique à danser doit forcément savoir danser, c'est le minimum. Mais savoir danser en jouant, n'est-ce pas, mademoiselle ? Car c'est une part très, très indispensable pour un musicien à danser. C'est savoir jouer en dansant.
Juste pour dire que vous faites
les assauts de
C'est une des musiciennes. David Mestri, bonjour. Je travaille pour Espace 2. Je sais pas si je vous volais quelques sons pendant la répétition pour l'illustration. On fait toute une série autour de l'atelier 2007.
Sylvain Fabre pour ses quelques préceptes, notamment rythmiques. David Mestri, l'ensemble à la volette pour les notes qu'on entend maintenant. Hein, quelques ambiances de ce festival Renaissance, de cet atelier Renaissance de Gruyère.
Avant leur concert qui n'a pas été enregistré malheureusement, qui a eu lieu ce soir-là. Et puis dans cette église Saint-Éoldule dont on entend les résonances à l'instant avec ces instruments assez impressionnants, surtout dans les mains de jeunes filles. Elles ont l'air d'avoir une quinzaine d'années de moyenne d'âge, ces jeunes musiciennes qui viennent de la Scala Cantorum, de cet ensemble à la volette.
Oui.
Et bien dans cette église, j'ai rencontré impromptuement le carillonneur de Saint-Éodule de Gruyère, qui est André Pochard, et qui est une des personnalités aussi qui marque notamment ce festival de l'atelier de musique ancienne, puisque à la demande des organisateurs, presque tous les jours, il va carillonner sur l'instrument qui se trouve dans la tour de cette église à Gruyère. Et nous sommes montés ensemble les trois étages pour aller voir ces sortes de manches à balai qu'il actionne pour en faire jouer des musiques qui nous font remonter cette fois presque au Moyen-Âge avec les cantigas de Santa Maria et les musiques du Livre Vermeil de Montserrat. Je peux monter avec moi? Ah, il faut de la santé pour monter jusqu'ici.
Là, je me dis que tant que je peux monter ici, j'ai de la santé. Alors, autre, il y a, quand j'ai commencé, on carillonnait depuis là. Sur ces manches à brouette.
Non.
Il y avait les câbles qui partaient de là, j'étais assis. Mm-hmm. Et puis, avec un jeune qui s'occupe des clochers, on a monté ce clavier. Puis, il a refait toute la câblerie. Ce qui fait qu'on joue de cet instrument.
Oui, c'est impressionnant, qu'il y a un plus grand coup, évidemment.
Oui, c'est. C'est pas comme à Saint-Maurice. Saint-Maurice, c'est un de ces carillons un peu hollandais.
Voilà, avec.
Et puis, c'est des petites cloches. Alors, moi, j'aime moins, je dois dire.
Il y a aussi des grandes, mais il y en a...
Mais aussi grand que ça, non.
Là, vous avez combien de cloches en tout?
On en a 8 qui jouent. Donc, le si bémol, do, ré, mi bémol, fa, sol, sol dièse ou la bémol, et puis le la. Donc, ça fait bien 8. On a encore place pour...
Vous devez soulever ces leviers pour les...
Non. Alors, je dois...
Frapper avec le poing?
Je vais vous le monter l'instrument.
Ah oui.
Il faut fixer les cloches parce que...
Ah, parce qu'elles sont sans relâchées quoi, pour les oreilles.
Chaque fois qu'elles reçoivent le coup, elles vont commencer à balancer. Donc, vous n'avez pas la maîtrise des répétitions.
Voilà, donc le battant de la cloche.
C'est le battant qui fait
le est accroché à,
donc il vient
au système.
Accroché et tiré par le câble qui est actionné par ici. Puis là, il m'a fait quelque chose d'intéressant. Il m'a mis des ressorts pour les plus grosses parce que voilà. C'est lourd, c'est dur.
Oui.
La grosse cloche s'appelle l'Immaculée Conception.
L'Immaculée Conception.
Celle-ci, c'est Saint-Éodule, la deuxième, le patron de la paroisse. Donc ça, c'est Sainte-Marie, la plus grosse, qui pèse 3 tonnes et demie. Saint-Éodule.
Ah.
j'ai l'impression que tu ignores complètement que la danse ne date pas d'hier ni d'avant-hier, du temps de nos aïeux ou de leurs pères. Tous ceux qui en ont recherché la véritable origine te diront qu'elle est contemporaine de l'univers. Elle est apparue en même temps qu'Eros, dieu des premiers temps. La ronde des astres, l'entrelacement des étoiles fixes et des planètes, le rythme harmonieux et régulier qui préside à leur mouvement commun. Tout cela constitue autant d'indices de l'existence d'une danse primordiale. Celle-ci s'est développée, perfectionnée, pour aujourd'hui atteindre un sommet. La voici devenue un bel ensemble riche, harmonieux et raffiné. Au commencement, Rhea, charmée, dit-on, par cet art, fit danser les corybantes en Phrygie et les courettes en Crète. Elle ne tira pas profit de leur talent puisqu'ils sauvèrent Zeus, son enfant, en dansant autour de lui. Aussi serait-il juste que ce dieu qui, grâce à leur danse, a échappé aux dents paternelles, reconnaisse qu'il leur doit une fière chandelle. Ils dansèrent tout armés, frappant par intervalles leurs boucliers d'un coup d'épée et bondissant plein d'ardeur guerrière. Par la suite, les plus vaillants des Crétois s'entraînèrent vigoureusement et devinrent d'excellents danseurs. Et pas seulement les simples particuliers, mais jusqu'aux plus importants des prétendants au trône.
Éric Desfosses, qui lisait là ces lignes de Lucien de Samosate, cet éloge de la danse du IIe siècle. Auparavant, c'est André Pochard qui vous sonnait les cloches, en l'occurrence celle de l'église Saint-Théodule de Gruyère, David Mestri. Et pour conclure cette émission, encore quelques notes de musique.
Et encore une muse grecque, c'est Terpsichore, à laquelle Michael Praetorius en 1612 a dédié son recueil de danse musicale, qui est l'un des plus fameux. Et nous écoutons ici un des ensembles qui était aussi invité à Gruyère, ses douces mémoires de Denis Raisin d'Adre, dans une suite de danse de ce Terpsichore Musarum de Praetorius.
Quelques notes de Michael Pretorius, là dans l'interprétation de l'ensemble Douce Mémoire de Denis Rézindadre. Denis Rézindadre, l'un des invités de cet atelier Renaissance de Gruyère, dans lequel nous retournerons demain, dès 9h, toujours en votre compagnie, David Mestri, toujours entre Château et Hostellerie Saint-Georges, qu'on soit intéressé par la danse renaissante ou par l'art de la lutherie, c'est ce qu'on verra demain, mais sachons nous souvenir que cette émission, chaque jour de l'année, peut compter sur l'assistance de production d'Isabelle Watson, et c'est Christian Morero qui, cette semaine, signa la réalisation de cette proposition de Jean-Luc Rider.
Espace 2. Des copies de nos émissions au 026 323 24 24.
L'affaire vous intéresse, comme je vous comprends. Chaque émission de Musique en Mémoire s'entend aussi la nuit, dès minuit, en nouvelle diffusion. Mais nous, c'est bien demain à 9h que nous retournons à Gruyère et à la Renaissance, grâce à vous, David Mestri. D'ici là, je vous souhaite de très doux moments. Pourquoi pas ici ou là, à l'écoute de nos programmes. Bye bye.
Espace 2, Catherine Buzer.
Bonjour à tous et bienvenue.
L'île au trésor.